c'est dans l'exercice du discours, c'est le discours en exercice qui produit les incorporels. Il n'y a pas de signification, il n'y a pas d'incorporel s'il n'y a pas ce discours. Quand le discours disparaît, quand les tenants du discours disparaissent, quand le discours tombe en désuétude, pas moyen, au travers de l'écrit, l'historien ne peut pas retrouver ces incorporels, c'est-à-dire cette signification. C'est ce que Lacan appelle l'embarras de l'histoire, dans L'étourdi. L'histoire, c'est la science de l'embarras, qui ne peut pas retrouver, au travers du chiffre, l'incorporel. Bon. Donc, déchiffrer, c'est le travail aussi de l'historien, c'est méthodique, c'est très intéressant, mais c'est de la science de l'embarras. Et Lacan, il dit, dans la psychanalyse, on n'a pas cet embarras, nous, puisque justement, c'est sûrement pas qu'on fait régresser le patient, mais le patient, il est là, vivant. Donc, lui, il vient avec ses documents, mais il est encore, il porte avec ses documents, il porte l'exercice du discours de ses théories sexuelles infantiles. Et donc, même si c'est refoulé, elles sont toujours vivantes, puisqu'elles donnent des rejetons, là, dans les symptômes, vous voyez. Donc, dans la psychanalyse, on n'a pas du tout l'embarras des historiens, puisque le sujet n'est pas mort, et on ne psychanalyse pas un mort. Parce que si on psychanalyse un mort, c'est plus de la psychanalyse, c'est de l'histoire. Puisque, vous voyez, comme quoi on psychanalyse personne, puisque celui qui compte comme sujet dans l'analyse, si l'analyse c'est pas de l'histoire, c'est le sujet vivant qui porte encore avec lui les incorporels, les significations de signifiants anciens, hein, même si c'est refoulé, il n'y a que lui qui pourra les retrouver, parce que l'étranger, comme le disent très bien les stoïciens, les incorporels, c'est ce que l'étranger ne peut pas comprendre. C'est le genre de blague que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas du coin, ou si vous n'êtes pas du clan, ou si vous n'êtes pas de la... Et c'est comme ça que, d'ailleurs, que les noms du père rentrent par ce côté-là dans le discours de Lacan. Les noms du père, il est évident que c'est de l'ordre des chistés, c'est la mère, ou c'est la famille qui produit des noms du père, qui vont devenir des signifiants exceptionnels pour le sujet, parce que justement, les autres ne peuvent pas le comprendre. C'est exceptionnel pour ce sujet, parce que c'est d'autant plus que c'est banal pour les autres. Donc ça introduit le trait unaire, le nom du père, et ça va jusqu'au sujet supposé savoir, d'après ce que dit Lacan dans le texte qui s'appelle La méprise du sujet supposé savoir à Rome, non à Naples, en 67. Bon, donc vous avez là quelque chose qui est de l'ordre de l'énonciation. Alors, je finis sur l'énonciation, c'est que vous voyez que l'énonciation, c'est une modalité. Je ne connais, il y en a sûrement d'autres, mais je ne connais qu'un seul philosophe, professeur de philosophie en France, en langue française, qui l'ait bien dit, d'une manière aussi forte et nette, c'est Brice Parrain. Dieu sait s'il est détesté et rejeté, qu'il a été rejeté par beaucoup. Dans son ouvrage qui était paru chez Gallimard, qui est réédité en idée, en poche, qu'on trouve de temps en temps, chez des bouquinistes, il dit quand il parle de Pascal, c'est vers la fin de son... Ça s'appelle, le titre de son ouvrage s'appelle « Fonction et nature ». Vous voyez, ça évoque Lacan, ça. Moi, je pense que Lacan, il a lu Brice Parrain, il a pris son titre du discours de Rome dans Brice Parrain. « Fonction et nature du langage hein. ». Alors, il ne dit pas de la parole et du langage, il dit « Fonction et nature du langage ». Ça, c'est Brice Parrain. Et dans ce livre, dans ce cours de philosophie, c'est un cours de philosophie, ça ressemble un peu à la philosophie raisonnée et aux différents ouvrages de Kojève. Il faut le lire en parallèle, d'ailleurs. Il faut lire la philosophie antique, le Kant et le Hegel de Kojève, et s'apercevoir que Brice Parrain, bon, il parle de beaucoup d'autres philosophes. Il parle de Pascal, de Leibniz, de Descartes. Mais quand il parle de Pascal, il a cette formule, il dit « Nos paroles sont des ordres ». Voilà, c'est ça le freudisme. Le freudisme, c'est nous ne nous en rendons pas compte parce que ça ne nous traumatise plus du tout. Déjà par l'école et par l'enseignement, on est tellement aseptisé, c'est tellement aseptisé pour nous, on est tellement immunisé contre la vérité et la parole qu'on ne se rend pas compte que les paroles, que le fait de parler, même de demander à quelqu'un. Tu veux bien me donner un sucre ou passe-moi l'heure, quelle heure est-il? On oublie que c'est quelque chose d'absolument impératif. Et même Kojève, qui fait un très beau livre sur le principe d'autorité, hein, son livre sur les quatre autorités, l'autorité du juge, du père, du chef et du maître, eh bien, il ne voit pas qu'il y a un principe d'autorité qui est la parole, et puis en plus, moyennant, alors pour expliquer pourquoi c'est le phallus, il faut parler du narcissisme, en plus, moyennant le narcissisme que Freud va thématiser effectivement en l'écrivant, eh bien, cette parole et cette autorité, c'est la fonction phallique. Bon. Et on peut aboyer comme on veut après, de toute façon, ça ne changera rien, sauf que si, ce qui pourrait changer, c'est si on arrivait effectivement à supprimer la parole et le langage, hein, ce serait quand même merveilleux, je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le désir des savants de faire disparaître ce problème qui impose Freud et Lacan. Et si vous retirez le langage et la parole, vous voyez, regardez par exemple, je vous donne un simple exemple dans ce qui va suivre dans ce cours. Prenez Saussure. Regardez la pauvreté du pauvre Saussure. Quand il vous dit qu'il essaye de définir l'objet de la linguistique et qu'il essaye de préciser entre diachronie et synchronie. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend la métaphore du jeu d'échecs. Il vous dit, voilà, la langue, ce que nous visons dans la linguistique, c'est, si on prend le jeu d'échecs, c'est la règle du jeu d'échecs. Et qu'est-ce que c'est que la parole, pour lui, c'est une partie d'échecs. C'est-à-dire, c'est un énoncé parlé ou écrit, il n'y a pas de différence, je suis sûr. Ça se déroule dans le temps. Ça se déroule dans le temps. Et par conséquent, c'est diachronique. Il appelle ça la parole. Et il oppose cette parole diachronique à la langue comme synchronie. Hein, ce serait la règle du jeu. Donc, une partie d'échec, c'est la diachronie, c'est la parole. La règle du jeu d'échec, vous pouvez prendre le jeu de bridge, si vous voulez, ou le poker, si vous voulez. Vous avez là, la règle, c'est ce que cherche le grammairien. Faire la grammaire, ça s'appelle la langue. Et c'est là que Lacan va introduire une pichenette, comme encore une fois. Il va corriger Saussure juste d'un petit iota. Hein, il va écrire cet objet de la linguistique, il va dire c'est la langue, mais il l'écrit en un seul mot. Alors, c'est très amusant parce qu'il avait un public tellement habitué à la niaiserie des nourrices que vous avez des gens qui, croyant devoir faire, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils sont pédophiles, peut-être pas, ils sont tout le temps des enfants, ils en sont arrivés à faire de la psychanalyse d'enfants, un espèce de truc qui serait le lieu où on va découvrir cette énonciation toute seule. Donc ils ont cru que Lacan, quand il parlait de la langue en un seul mot, le fait d'écrire comme ça, la langue, hein, en Belgique, à Bruxelles, ils le disent, et ils le disent aussi à Montréal, parce que Jean-Paul Gilson a immigré à Montréal. Alors ils ajoutent même la langue, pour bien vous faire comprendre qu'il s'agit de la l'air. C'est la langue, c'est la, je connais la chanson, vous voyez. Bon, mais il ne faut pas se foutre du monde. Moi je vous dis que cette histoire d'infantilisation, Lacan il dit la langue en un seul mot parce qu'il corrige Saussure, mais il le corrige sur quoi? Bien sûr que la langue c'est l'objet de la linguistique, c'est bien sûr que la grammaire elle s'intéresse à la synchronie, elle s'intéresse au système qui contient tous les énoncés corrects, comment arriver à les isoler, à les produire ou à les reconnaître. Hein, c'est le problème de Chomsky. Ce qu'il dit, c'est le problème grammatical comme tel. Bon, c'est savoir comment reconnaître les énoncés ou comment les produire. Bon, bien sûr que c'est là, mais vous voyez que la pichenette, la petite différence qu'introduit Lacan en parlant de la langue, finalement, la critique qu'il porte, qu'il amène, c'est évidemment du côté du signifiant et de la parole, du signifiant en tant qu'élément qui s'entend, qui est du côté des oreilles. Et vous voyez bien que du côté de la parole, alors là, d'après ce que je viens de vous dire juste avant, vous voyez bien que la parole pour nous, c'est sûrement pas, ça ne peut en aucun cas, ça ne peut certainement pas être simplement une partie d'échec parmi les parties d'échec qu'on peut faire en suivant la règle. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est que la science des énoncés, c'est ce que fait la linguistique, c'est ce que fait la logique, ils sont tous dans l'écriture. Mais ils oublient qu'ils parlent, comme tout le monde, ils oublient cette modalité de la nécessité de l'énonciation. Et pour nous, la parole, vous voyez bien que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fondamental et tragique que l'énoncé, hein, et le déroulement dans le temps, la diachronie de l'énoncé. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire d'énonciation, de dixis, que la parole est un acte, que la parole est une autorité, que la parole, c'est toujours un ordre, comme le dit Brice Parrain. voyez, nos paroles sont des ordres. Et les enfants, eux, ils s'en rendent compte encore. C'est comme ça qu'ils sont traumatisés par le fait que les parents ne s'en rendent pas compte, hein, comme il dit Lacan à la fin. Les enfants sont traumatisés, ils rentrent dans la parole et dans le langage par cette fonction de la parole qui s'appelle autorité, phallus, fonction phallique, nécessité du fait que ce soit dit. Si c'est dit, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas effacer la parole. La parole, elle est parole, pourquoi? Parce qu'elle n'est justement pas enregistrée. On peut effacer la bande magnétique, mais la parole, que ce soit enregistrée ou pas enregistrée, même effacée ou pas effacée, il restera que la parole, elle est dans l'événement. Bon, alors là, vous pouvez faire de l'ontologie avec les philosophes, hein. L'être et l'événement, vous voyez, vous en avez une tonne. Bon, c'est-à-dire que c'est ce que va justement reprendre Badiou. Bon, mais c'est pas nouveau. Mais seulement le problème, c'est que justement, eux-mêmes, ils sont dans l'écriture et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas dans la parole. C'est extraordinaire. Il fallait sans doute que Freud soit médecin pour inventer la psychanalyse. Et puis, alors, du coup, on met l'accent sur la souffrance du corps. Mais Freud, c'est un génie parce qu'déjà, il a entendu, vous voyez, avec ses oreilles. C'est pas la souffrance de oh là là, j'ai mal. C'est pas ça que. C'est pas ça qui fait que la parole est la parole, non. Vous n'arriverez jamais à participer ni à la souffrance ni à la jouissance des autres. Non, le problème de la parole, c'est le fait que celui qui parle, une fois que c'est dit, c'est dit. Et il y a une autorité de la parole du fait que c'est irréversible. Hein, et que le sujet sera toujours. Il se ratera toujours s'il essaye de se penser comme sujet de l'énonciation. Parce que ça passe trop vite. Ça passe à toute allure. Et il est toujours déjà dans un énoncé suivant s'il essaye de se penser comme énoncé de l'énonciation. Et puis, il y a cette dimension d'autorité et phallique. Alors, pourquoi phallique? Bon, alors les raisons que je vous donne, c'est que le petit enfant, il dit « ma mère a un phallus, comme mon père hein. ». Freud, il dit « comme les enfants », mais il dit à l'envers. Il dit les théories sexuelles infantiles et la période oedipienne, c'est la même pour le garçon et les filles. Vous avez remarqué ça? C'est amusant. Hein, les enfants, ils disent papa et maman, ils croient à la mère phallique pendant la période primaire, là, pendant la construction de l'inconscient, des théories sexuelles infantiles, entre le trauma et la castration. Et c'est pareil, ce que dit Freud, ce que Jones va dire à l'envers, hein, quand on défend Freud, quand Freud lance la phase phallique en 23, Jones, pour le défendre, il dit. Non, finalement, il conclut son article en disant bon, ben, les petits garçons naissent avec des chaussons bleus et les petites filles des chaussons rouges. Roses. Là, le point, il est que vous voyez bien que la théorie de Freud, c'est que les petits garçons et les petites filles, c'est la même période oedipienne primaire qui constitue l'inconscient jusqu'au moment où ils découvrent que la mère, la castration de la mère, on peut, à un moment donné, ils ne peuvent plus le nier, comme dit Freud. Bon. Et Freud, quand il parle de ça dans l'analyse de Hans, parce qu'il note que Hans a dit à son père. Ou à faire remarquer à la famille, comme ça, en regardant la petite sœur qui prenait son bain, qu'elle avait un fait pipi. Hein, dans l'édition des pufs de l'analyse de Hans, c'est page 95. Il dit ça, Hans, il dit, elle a un petit fait pipi, mais elle va grandir et il va devenir grand. Alors là, il y a une note de Freud, donc je vais prendre l'autorité de Freud pour être sûr que je suis freudien, hein, c'est ça que je veux, hein, pour vous convaincre, non. Je vous dis que Freud le dit, que moi je l'ai mieux compris en lisant dans Freud, mais que c'est ça qui était déjà mon symptôme quand j'étais petit, avec mes histoires de gribouille. C'est que le petit garçon, Hans, il dit voilà, ma petite sœur, elle a un fait pipi, puis elle va grandir, il va devenir plus grand. Et Freud ajoute une note, il dit moi je connais plein d'enfants qui disent ça, plein de petits enfants, garçons et filles qui disent ça, elles ne sont pas débiles. Premier point. Ça, la note, il y a trois étapes. Hein. Premier point. Les enfants qui disent ça ne sont pas crétins. Bon, on va voir pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement parce que Freud le dit, vous allez voir, ils ne sont vraiment pas crétins. C'est toute l'histoire du Père Noël, ils ne sont pas crétins. Bon. Là-dessus, deuxième remarque de Freud, il dit finalement, ils ne se conduisent pas plus mal que l'école de Wundt, qui me dit que l'inconscient, le psychisme est conscient nécessairement parce que c'est le psychisme. Bon. Alors là, Freud, il dit, bon, ils ne se conduisent pas plus mal que les philosophes de l'école de Wundt. Vous voyez, donc, voyez le lien avec la formule de Tarski, hein, puisque la formule de Wundt, c'est dire l'inconscient est nécessairement, le psychisme est conscient, c'est nécessaire parce que c'est le psychisme. Tarski dit, la neige est blanche, c'est vrai, c'est équivalent à la neige est blanche. Ce genre d'énoncé que Freud appelle Gleichstellung, mise à égalité, jamais expliqué, posé d'emblée, vous voyez, vous en avez une tonne dans le langage, des trucs comme ça. Ça va. Vous avez par exemple la phrase de Descartes, je pense donc je suis. Vous voyez, Descartes, il avance bien, comme ça. Hein, chevalier, il arrive et puis il dit, je nettoie tout le savoir, j'oublie tout, je ne veux plus rien savoir et tout ça. Qu'est-ce qui reste? Je pense. C'est ça qu'on oublie. Il ne commence pas par dire je pense donc je suis, il dit je pense. Et là, il embraye sur je pense donc je suis. Donc je pense équivaut je pense donc je suis. Vous voyez que je suis en train de faire ce que Lacan nous annonce dans le séminaire sur les quatre concepts. Il dit il faudra bien un jour que le cogito cartésien vous paraisse un paradoxe. Tout le monde dit, tout le monde, tous les profs de philo, ils vous disent le Descartes ou le cogito, oui, ils vous le disent même en latin, ergo sum, hein. Bon, très bien, je pense donc je suis, mais qui se donne le soin de lire dans le discours de la méthode en français? Bon, dans les méditations, c'est en latin. Et là, il parle de j'existe. C'est pas je suis, c'est j'existe. Je pense, eh bien, c'est équivalent à je pense donc j'existe. Bon, eh bien, ça devrait vous paraître paradoxal. Moi, si je suis un abruti, connard, débile mental et qui ne veut pas savoir ce que c'est que l'ontologie. Parce que la justification de l'ontologie, c'est qu'on emploie le verbe être. Hein, les langues n'ont pas de verbe être, il n'y a pas d'ontologie. Et les Chinois, ils n'ont pas d'ontologie. Bon. Donc, je devrais comprendre l'ontologie parce que je parle une langue, c'est ce que me disent les profs de philo, je parle une langue où il y a le verbe être, donc je dois m'intéresser à l'ontologie. Moi, vous savez, je trouve que c'est très très bien de s'intéresser à l'ontologie, mais je suis David Jacobson, laissons ça aux philosophes. N'empêche que c'est si je laisse ça aux philosophes, que les philosophes trouvent très bien qu'on dise je pense donc je suis, ok. Mais moi, je peux quand même me poser la question, parce que je suis débile mental, et me dire qu'est-ce que c'est que ce type qui vient me dire je pense. S'il pense, hein, il pourrait dire je pense, donc je pense. Pourquoi il dit je pense donc je suis, hein? C'est parce que c'est pourquoi. Peut-être que là, on va retrouver l'ontologie d'une autre manière. C'est qu'il est en train de dire, voyez-vous, Descartes, il dit. Je pense égale i de x. C'est la fonction identique en maths. Je pense donc je suis, ça veut dire je pense égale je pense donc je suis. Parce qu'il dit la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche. Donc je vous donne un nouvel exemple avec le cogito de cette structure. C'est la structure de l'identité. Mais l'identité, c'est pas x égale x, c'est pas je pense donc je pense, ou je pense équivaut à je pense, justement pas. La phrase de l'identité, c'est je pense égale je pense donc je suis. Vous voyez? Et vous voyez que ça donne la neige est blanche égale la neige est blanche est vraie. Là, je le lis à l'envers. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. La neige est blanche est vraie égale la neige est blanche. Moi, je mettais l'accent de l'énonciation sur ce terme-là. La neige est blanche comme énoncé, effectivement énoncé. Et ça comme un nom. Hein? C'est-à-dire plutôt comme un A, vous voyez, le truc de Tarski, ça ne marche plus du tout si on écrit comme ça, c'est plus du tout rigolo, parce que là c'est X, là c'est A, ça c'est une constante, ça c'est une variable. Donc il y a des petits problèmes de modalité comme ça. Mais qui fait remarquer que ça, c'est un principe d'identité différent de celui-là. C'est pas, vous voyez, quand on se gargarise avec la tautologie, on rate complètement la fonction de l'énonciation, la fonction du phallus, hein, et on va vous parler de quoi? De la pulsion, comme bourgeonnement des organes, je ne sais pas, ça vous pousse au cul, mes petits amis, c'est vrai que la pulsion, ça pousse au cul, mais il faudrait dire pourquoi. Il faut dire pourquoi, parce que justement, il y a dans le langage cette fonction de la parole qui est cette fonction, je dirais, de l'autorité phallique, hein. Et que les enfants, ils le repèrent très très. Le petit Hans, il le dit, et Freud le commente. Moi, ça m'a permis de comprendre, c'est le commentaire de Freud qui m'a permis de piger que c'était mon problème quand je perdais des bons points à l'école. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une autre formule à laquelle il faut que vous vous intéressiez. Et ça, on peut dire qu'on peut reconnaître à Popper que dans son texte sur Tarski, c'est Popper l'emploi, il dit qu'il s'est aperçu pour faire comprendre aux étudiants ce que voulait dire Tarski et les conséquences de ce que disait Tarski, qu'il fallait employer la formule de Tarski dans un autre cas, Alors, vous voyez, c'est pas une tika qu'il critique parce que ça marcherait pas, c'était modal. Ça marche parce que c'est hypermodal, justement, Tarski. Mais Popper, il s'est rendu compte qu'il fallait l'employer avec des phrases fausses pour frapper l'esprit. Et donc, là, c'est là que vous allez trouver le problème que moi j'avais quand j'avais un symptôme à l'école maternelle. C'est que la neige est verte est vraie si et seulement si la neige est verte. C'est-à-dire que même si c'est faux, hein, vous voyez que la formule de Tarski, elle marche aussi. Parce que x égale i de x, ça marche si vous avez, regardez, si vous avez la fonction i, qui est la fonction qui a vrai fait correspondre vrai et a faux fait correspondre faux, c'est ça l'identité. Hein. Vous avez un ensemble là, puis un autre ensemble là, c'est le même. Hein. Ça, c'est la fonction identique. Vous voyez que ça, vous écrivez que i de v égale v et que i de faux égale faux. Bon, donc c'est ça ce qui veut dire parce que la neige est blanche. Malgré le V. Hein. La neige est blanche, puisqu'il paraît que c'est vrai que la neige est blanche. Hein. On s'en fout, évidemment. Enfin, bon, au cas où ça vous intéresse. La neige n'est pas verte, elle est blanche. Bon, la neige est blanche est vraie, ça équivaut à la neige est blanche. La neige est verte est vraie, ça équivaut à la neige est verte. Parce que la neige est verte, c'est faux. Donc, que pour le prédicat de vérité, I de F, c'est quoi? C'est le vrai est vrai, c'est vrai. Le faux est vrai, c'est faux. Vous voyez ? Donc ça marche aussi pour les énoncés faux. Et c'est ça que moi je ne comprenais pas quand j'étais débile, enfant, mal élevé, comme tous les enfants modernes et psychotiques d'aujourd'hui et qui deviennent adultes. Hein. Je comprenais pas que si les choses fausses étaient vraies, c'était équivalent du fait qu'on les dise, même si elles étaient fausses, et c'est la caractéristique du mensonge d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche au menteur. On ne reproche pas au menteur que la phrase qu'il dit soit fausse, on lui reproche de le dire, parce que le fait de le dire, hein, ça fait un lien avec la vérité, puisque la neige est verte est vraie, équivaut à la neige est verte. Si je vous dis la neige est verte, c'est faux, mais n'empêche que la neige est verte est vraie, c'est aussi faux, mais ça dit... Alors, c'est là que se pose la question, est-ce que c'est le fait que ce soit vrai ou faux qui compte, ou est-ce que c'est le fait de le dire? Et c'est ça l'énonciation. Si c'est dit, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire quoi, ben, de la littérature. Voilà. Et vous voyez bien que la littérature, c'est quoi? C'est que on prend des gants. Hein, on vous dit, comme ça fait l'anglais de Morgan, univers du discours. Vous voyez, par exemple, les animaux parlent. C'est faux en général. Les animaux ne parlent pas, donc. Ça, c'est ça qu'il faut dire. C'est la fonction de la négation. Les animaux ne parlent pas. Hein? Mais alors, quelqu'un va, un petit malin qui va vouloir emmerder les logiciens, il va venir, il va dire, mais quand même, regardez, dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent. Ah, merde. Alors, les animaux, ils parlent ou ils parlent pas? Hein? Dans les fables de La Fontaine, ils parlent, et puis d'après ce que disent les gens sérieux, qui sont pas dans la fable, hein, eh ben, les animaux, soyons sérieux, ils parlent pas. Bon, c'est une fiction, La Fontaine, c'est de la littérature. Et alors vous voyez une chose extrêmement intéressante apparaître. Vous avez ce génie de Morgan qui a fait des bons travaux de logique, hein. C'est l'inventeur de la dualité, de Morgan, qu'on va utiliser d'ailleurs. Mais vous voyez que de Morgan, il est complètement con quand il vient introduire la notion d'univers de discours pour sauver la logique et la vérité. Alors là, c'est mesquin, minable, hein. On saucissonne le discours. Bon, c'est les animaux parlent, c'est vrai dans l'univers du discours de la fable de La Fontaine. Vous voyez un peu le truc, hein. La vérité, elle est négociable comme ça. Vous voyez, vous allez avoir là, pour cela, les animaux parlent, pour cela, les animaux ne parlent pas. Bon. Alors, les animaux, hein, ne parlent pas, ça c'est ce que tout le monde dit, et dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent. Et bien Lacan, il apporte en plus un élément nouveau, contre Saussure, qui explique cette histoire de la langue. Non seulement, hein, la langue, en un seul mot, ça indique bien que c'est l'objet de la linguistique, c'est pas le langage babil des enfants, et c'est une critique de la notion catastrophique de la parole chez Saussure. La parole ne peut pas être réduite simplement à être une partie diachronique. Dans la diachronie, c'est un acte, c'est un événement, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui porte, qui a des conséquences, c'est une autorité, la parole. Et cette parole, elle est absolument fondamentale Bon, il n'y a que la psychanalyse qui découvre ça. Et en plus, extraordinaire, les enfants disent la même chose que Tarski. Ils disent « ma mère a un phallus parce que c'est ma mère ». Vous voyez ? C'est ça la face faillite. « Ma mère a un phallus parce que c'est ma mère ». Comme des fois, ils ne sont pas couillons du tout. Ils ne sont pas du tout couillons, les petits-enfants. Ils disent la même chose que Tarski. Ça veut dire plutôt l'inverse, si vous voulez réfléchir. Ça veut dire que les philosophes, hein, tout à l'heure, je défendais Tarski contre Intika. Maintenant, je reconnais que Tarski, hein, finalement, il dit la même chose qu'un enfant. C'est que la phase phallique, la soi-disant phase phallique de la période œdipienne, des théories sexuelles infantiles où la mère est phallique, eh ben, vous apercevez que tous les savants du monde aujourd'hui, ils sont dans la phase phallique du processus primaire en disant la neige est blanche, c'est vrai, si et seulement si la neige est blanche. C'est la définition de la vérité. Hein. Vous voyez ? Est-ce que vous commencez à percevoir la difficulté que qui sont les grands, qui sont les petits, qui c'est les gens sérieux, qui c'est les gens pas sérieux, les enfants, à un moment donné, ils s'aperçoivent que, pof, tout à coup, la mère, leur mère, elle n'a pas de phallus. C'est la castration. C'est le gouvernement du monde dans l'eau. Et alors, il y a un dernier point, quand même, dans cette histoire de sérieux, pas sérieux. C'est que Lacan, donc, quand il nous dit « les animaux parlent », par exemple, voilà, « les animaux parlent », eh bien, il nous fait remarquer une chose, c'est que les animaux, c'est ce que Deleuze, avec son vitalisme, essaye d'expliquer par le percept, hein, les animaux, ou les éthologues, quand ils s'intéressent au mimétisme animal, lisaient Queloz, Lacan le citait dès le stade du miroir, Queloz, hein, Méduse et société. Les animaux parlent, Lacan, il montre bien que c'est une façon de résoudre le problème de la différence entre la fontaine et les gens sérieux, mais disons sérieusement que les animaux parlent. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que les animaux parleraient pas, mais ils ne parlent pas dans le langage ? Les animaux n'écrivent pas. Les animaux ne font pas de grammaire. Les animaux ne font pas des commentaires sur ce qu'ils écrivent. Les animaux, lisez Benveniste sur les abeilles, les animaux ne transmettent pas le message. Les animaux communiquent, comme le dit Benveniste, mais ne transmettent pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la communication qui est devenue le maître mot, mais Benveniste, il faisait déjà la différence entre communiquer et transmettre. On le fait même pas dans la psychanalyse. On emploie transmission comme s'il s'agissait de donner la communion ou de, je sais pas, comme si je vais vous apposer les mains, vous allez voir, c'est les écrouelles, je vais vous guérir. La transmission de la psychanalyse, vous avez entendu parler, quoi. Complètement dément comme discours, hein, dans les groupes, là, ils sont tous en train de se gargariser avec la transmission. Bon, la transmission, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus modeste. La transmission, c'est le mot d'esprit. Les animaux ne font pas de mot d'esprit. Hein. Bon, et alors, il y a un lien entre le mot d'esprit et l'énonciation. Bon, je vous ai déjà raconté l'histoire du type qui vendait des voitures. C'est un type qui vend des voitures. Je vous ai pas raconté ça, qui a perdu son boulot. Il travaillait dans la société Fiat et puis il a perdu son boulot. Puis il est embauché par Peugeot. Vous connaissez pas, je vous ai raconté ça, non ? Un type qui est engagé par Peugeot, il rentre chez lui le soir, au dîner, il voit sa femme, il dit ah, « c'est chouette, j'avais perdu mon boulot, maintenant j'ai retrouvé un boulot, je vais vendre des voitures. J'ai retrouvé un boulot pour de vendeur de voitures, c'est vachement bien. » Sa femme est contente pour lui, ça apporte l'argent à la maison. Alors, le lendemain, le type, il commence son boulot, et puis au bout de la matinée, il y a quelques clients qui se plaignent auprès du concessionnaire Peugeot. Ils disent, oui, il est bien votre marchand, votre vendeur. Il est bien, vous voyez, lui aussi, il a fait une commerce, il est en habit. Il est déjà comme un mormon, vous voyez, avec un costume noir, un exécutif, une cravate. Bon, il vend des voitures. Mais il est bien, les gens, ils achètent des voitures, mais ils disent, c'est quand même curieux, quand même, parce que vous devriez lui dire que la marque, là, c'est pas Peugeot, c'est Peugeot.
Ah oui.
Alors, le patron, le concessionnaire de Peugeot, il est un peu surpris. Il appelle le vendeur et lui dit, écoutez, il paraît que, comment vous appelez les voitures ? Alors le type lui dit, Peugeot. Ah, il dit, mais non, c'est pas Peugeot, c'est Peugeot. Ah, il faudrait quand même corriger ça. Ah bon, il dit, oui, bien sûr, je vais arrêter, je vais corriger ça. Bon. L'après-midi se passe et il y a encore un client qui fait une blague en rigolant, en disant oui, il est bien votre vendeur, ça, mais quand même c'est bizarre, il appelle les voitures qui vendent pigeotte. Alors le soir, le patron, il appelle l'employé, il dit écoutez, ça va pas, vous paraît que vous continuez à appeler les voitures pigeotte. Alors écoutez, si demain vous ne corrigez pas ça, je ne peux pas vous garder, on ne va pas vendre des pigeotte. Le type, il rentre chez lui le soir, il dîne avec sa femme, il ne parle pas de ça. Bon. Il ne lui dit rien, il s'inquiète, il réfléchit beaucoup, et puis il finit par dormir un peu. Le lendemain, il retourne au boulot, et la matinée se passe, et évidemment, il y a des clients qui font remarquer qu'il dit pigeotte. Il vend des pigeotes. Bon, alors, le patron, à midi, lui dit non, écoutez, c'est pas possible, vous êtes licencié de ça. Le type est catastrophé, il va boire. Alors, il rentre chez lui le soir. Et alors il dit à sa femme, écoute, il faut que je te dise un truc, c'est que j'ai perdu mon boulot, là j'avais trouvé un bon boulot, mais chez Pigeotte, mais ça marche pas. Ils n'ont pas voulu me garder, ça. Alors la femme elle dit, ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as volé dans la caisse, tu as fait des erreurs. Non, il dit, non, moi-même je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Alors la femme dit, mais quand même, il faut dire la raison, il dit, écoute, peut-être. Il y a peut-être une raison, mais j'ai l'impression que ça s'est passé comme chez Fiot. Vous voyez, le mot d'esprit et l'énonciation, voilà quelqu'un, voilà typiquement ce qui nous arrive à tous, de ne pas entendre tous les phonèmes exactement. Vous ne pouvez pas savoir la diversité des phonèmes dans la manière de les prononcer, la manière de les entendre. Comme le dit Jacobson, on n'entend que ce qu'on veut, et puis on prononce ce qu'on peut. Jacobson, il dit même qu'on entend les phonèmes que ceux dont on a l'usage soi-même pour un mot. Donc, l'histoire de l'oreille musicale, ça m'a toujours fait rire. Hein, moi, j'aime bien écouter même du backstring sur un disque qui fait du crin-crin, là, ça ne me gêne pas du tout. Moi, les types, les perfectionnistes du son, l'oreille absolue, je ne sais pas quoi, ça me fait vraiment marrer, c'est la même chose que de raisonner sur une figure fausse en géométrie, c'est bien connu. Bon, l'exactitude, c'est pas la rigueur. Alors voilà, moi j'ai été traumatisé quand j'étais petit par le fait que la neige est verte. Hein, est vrai si et seulement si la neige est verte. C'est-à-dire que les énoncés faux tombent aussi sous le coup, non seulement du prédicat de vérité, mais de la formule de Tarski qui dit que quelque chose est vrai si et seulement si c'est dit. Vous voyez ? Eh bien, c'est grâce à la psychanalyse que j'ai pu me soigner de ça, parce que on peut avoir d'ailleurs le symptôme inverse, hein, c'est-à-dire ne pas comprendre, ne pas admettre qu'il y ait des choses, une différence entre le gribouillis et le truc bien écrit. Voyez, moi, je pensais que le gribouillis c'était quelque chose qui était nécessaire. Je comprenais pas qu'on ne donne pas de bons points, parce que j'étais plein de bonne volonté. J'avais essayé de le rendre joli, mon numéro 2. Mais vous voyez, on peut avoir toute une variété de cas à propos de cette histoire d'énonciation et de scription, parce que ça se passe aussi. Et c'est ce qu'on ne comprend pas des mathématiques. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas des mathématiques? C'est que les mathématiques, c'est une pratique de l'écriture qui repose sur l'intégration par le sujet lui-même de cette loi de la parole, que ce qui est dit doit être vrai. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui ne triche pas avec ses calculs. Quand il peut faire des erreurs de calcul. Vous remarquerez qu'avec l'écriture, l'inertie de l'écriture permet qu'on relise ses calculs et qu'on se corrige. On ne peut pas se corriger dans la parole. Et le mathématicien, c'est quelqu'un qui intègre dans son intimité. C'est pour ça que Cantor dit que la mathématique, c'est la liberté. Parce que c'est une contrainte telle que d'avoir la même contrainte que celle de la parole, particulièrement qui est une contrainte en public. Hein, parce que vous avez bien vu que les sociologues incapables de traiter de la rumeur. Hein. La rumeur, c'est quoi? C'est un fait d'énonciation. Hein, c'est « je te dis pas, hein, je te l'ai pas dit, hein, il faut pas le répéter, mais je vais te dire, voilà, j'ai appris que... » Bon, et paf, ça part, et pourquoi? Ben parce que ce qui est dit, ça a des effets. Voilà, la rumeur, c'est un fait de phallus. Vous voyez, alors c'est pas demain qu'on va se débarrasser de la psychanalyse, on peut se débarrasser du phallus, on met des casquettes à la place des chapeaux. Hein, les vieux, ils ont des casquettes maintenant, ils n'ont plus de chapeaux, les vieux américains, vous avez remarqué.